Bonjour, Odile avec vous dans l'émission Passionnément Vôtre chaque mercredi de 16h30 à 18h sur Fréquence Mistral 99.3. Chaque mercredi, un nouvel invité vient nous parler de la passion qui l'anime. Et c'est aujourd'hui, mercredi, que je reçois avec plaisir Stéphanie Waller, poète, écrivain, écrivaine. Stéphanie, bonjour.
Bonjour Odile.
Ravie de vous recevoir dans cette émission sur Fréquence Mistral. Et alors, on va faire connaissance, puisqu'on se connaît un petit peu, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Et voir d'où vous vient cette passion des mots. Et ce goût de l'écriture, quand est-ce que ça a commencé?
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Quand est-ce que ça a commencé? Je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé. Je pense que je devrais parler d'abord d'une personne, Frayssinho Jacqueline, ma grand-mère, qui m'a transmis le goût des livres, le goût de l'écriture, la confiance. Et après, le stylo, le papier, la sensualité du papier, et après, des contextes. Merci Odile de me donner l'occasion de pouvoir parler de cette passion qui m'anime, qui vient de l'anima, c'est-à-dire de l'âme, mais qui vient aussi du concret et de la réalité dans lequel je peux me plonger tous les jours. Je crois que le moment où je préfère écrire, c'est quand je suis au milieu de tout le monde. L'écriture est ambiguë parce que, me semble-t-il, il y a cette contradiction entre un acte solitaire et une volonté de comprendre le monde, une volonté de s'immerger avec les autres, de donner un sens, même si ce sens n'est pas signification. Pour anecdote, le premier texte que j'ai écrit m'avait été inspiré par les contes que mes parents me lisaient. Et le conte de Blanche-Neige, avec cette marâtre qui se regardait dans un miroir et qui voulait savoir qui était la plus belle. Et je crois que je me suis demandé à ce moment-là, ça remonte à loin quand même, hein, à ma petite enfance. Je crois que je me suis demandé à ce moment-là, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est ce que l'on montre? Est-ce que c'est l'extérieur? Ou est-ce que c'est ce que l'on sent? Est-ce que c'est l'intérieur? Donc ce miroir est devenu un révélateur de l'intériorité. C'était un petit peu magique, c'était mon premier poème.
Que vous avez écrit très tôt? Entre 6 et 8 ans, c'est ça?
Approximativement, effectivement.
C'est vraiment très tôt pour écrire. Enfin, on commence à écrire un peu les poésies. Non, on les apprend, on les écrit pas, on les récite à l'école, en primaire. Donc, vous avez eu tout de suite cette envie. Est-ce que ce premier texte, Le Miroir, qu'est-ce que vous... Donc, vous l'avez... Vous l'avez écrit, bien sûr. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le fait voir aux grandes personnes? Est-ce que...
Ah oui, j'ai acquis une popularité. Dans l'endroit où j'étais hospitalisée à Nice, à l'hôpital Lanval. Et j'ai acquis à ce moment-là une popularité auprès du service soignant qui me crée une auréole de gloire. Oui, je crois que le texte se partage, bien que pour l'instant, je n'ai jamais publié. Parce que il me semble que c'est un autre travail aussi. La réception est extrêmement importante parce que lorsqu'on écrit, bien que l'on soit seul, là encore, on écrit avec l'autre, pour l'autre, même si l'autre est absent.
Cette écriture, donc très tôt, a été bien reçue et bien encouragée par le personnel soignant, donc qui était le premier public. Ça fait chaud au cœur quand c'est...
Ah, totalement.
On a cette reconnaissance. Après, il y a eu, comme tous les adolescents, un journal qui s'est écrit au fur et à mesure des années.
Oui.
Et puis, en sixième, une autre gloire, puisque un de vos poèmes a été affiché.
Oui.
Alors,
mon professeur de français avait trouvé que mon poème méritait d'être lu.
Alors, comment s'appelle-t-il et vous allez nous le lire ?
Un rêve. Je me réveille le matin et je regarde le jardin. Il n'y en a plus. C'est un mur plat, un mur de béton qui est long, plus long qu'une vie. Il est sale et toujours gris. Je me dis peut-être qu'il y a un géant gentil qui viendra nous sauver, nous les êtres. Et qui va rapporter un jardin sans voiture, un jardin tendre et pur, un jardin un peu coquin, où poussent des arbres avec des fruits confits. Mais pas de câble, pas de fil électrique, un peu comme un monde magique. Être seul et tranquille, être seul dans la ville. Une vie tranquille, mais ce n'est qu'un rêve. Mais ce n'est qu'un rêve. On ne voit qu'un mur de béton, sans fleurs ni soleil. Mais ce n'est qu'un rêve. Il en faut des rêves. Le rêve, dans le mien, il y avait un jardin.
Nous sommes en compagnie de Stéphanie Waller, qui vient de nous lire ce beau poème, donc écrit très tôt aussi, et qui a fait l'unanimité auprès des enseignants aussi, déjà.
De Madame Boursier, qui était mon professeur de français en 6e M1. Et...
À Digne, donc.
À Digne, les ouais.
Vous êtes née à Digne ?
Non, je suis née à Nice, près de la mer.
Donc, un goût de la poésie très, très vite, hein. Est-ce que des poètes vous ont inspiré ? Est-ce que vous lisiez beaucoup ?
Je lisais. Quantitativement, je ne saurais dire. Les poètes qui m'ont influencée sont Rimbaud, Baudelaire, mais là, je parle plutôt de mon adolescence. Dans l'enfance... Pierre Mononteau avec Le vieux et son chien. S'il était le plus vieux de tous les vieux du monde. Non, si j'étais, pardon, le plus vieux de tous les vieux du monde. L'amour luirait encore dans le fond de ses yeux. S'il était le plus laid de tous les chiens du monde. L'amour luirait encore dans le fond de ses yeux. Approximativement. Et nous serions toutes deux, lui si laid, moi si vieux. Un peu moins seul au monde à cause de ses yeux. Donc ce poème-là m'a marquée. Mais plein d'autres. Et pourquoi la poésie plus que la prose ? Parce que le mot prend un tour magique, une sorte de musicalité que je retrouve à présent dans la prose, puisque je me suis mise à la prose, avec cette idée de poiesis ou de poésie, c'est-à-dire créer à partir du mot, à partir de cette entité. Pourquoi un mot a-t-il un sens et pourquoi le mot porte, P-O-R-T-E, signifie-t-il un objet en bois que l'on peut ouvrir ? Donc cette réflexion me semble être à la base une réflexion poétique. obligatoirement pour moi. Puis au fil des années, au vu des études que j'ai faites, j'ai compris que poésie et prose pouvaient se concilier avec évidemment Arthur Rimbaud, mais aussi Saint John Perse, quand il dit « Enfance, mon amour, enfance, n'était-ce que cela ? Enfance, mon amour, le double anneau de l'œil et l'aisance d'aimer, il fait si beau et puis si calme et puis si continuel aussi. » Bon, c'est un poème en prose qui m'a fait comprendre que cette rupture n'existait qu'à une époque et que le XXe siècle et le XXIe siècle a remis en cause cette rupture, cette cassure entre prose et poésie. Je suis partie de la poésie parce que c'est de la musique, c'est du chant, c'est un rythme, c'est mélodieux. Et la musique, la danse, le rythme, c'est ce qui nous permet d'aborder la vie avec un souffle différent, avec une harmonie différente. C'est ce qui nous donne des ailes un peu. Voilà.
Oui, il y a le goût de l'écriture, mais il y a aussi donc la danse, le théâtre. On va y venir puisque vous en avez fait aussi la danse plus jeune.
Oui, j'ai commencé la danse, je ne saurais dire, mais bon, quand les enfants commencent à faire une activité.
Danse plutôt classique, contemporaine.
Classique.
Classique, ça devait être difficile, non?
Avec Madame Lombard et son bâton et son clavier. Oui, c'était très rigoureux et elle m'a transmis quelque chose de fondamental.
C'est-à-dire? Par cette rigueur, par cette...
Oui, par cette rigueur, mais aussi par ce piano qui était présent dans cette salle, par ces touches qui nous accompagnaient dans nos exercices. La rigueur alliée à une évasion possible, à une rythmicité. Et le corps qui n'était plus dans un carcan... d'avancer, mettre un pas après l'autre, mais qui était dans une sorte de recommencement, de mouvement qui est perpétuellement en recherche de lui-même et qui n'a plus un but, aller d'un point A à un point B, mais qui a son but en lui-même. C'est-à-dire que la danse devenait une pratique artistique pour elle-même, sans attente de quoi que ce soit.
Est-ce qu'il y avait du plaisir dans le corps, autre que la musicalité, le rythme ?
Totalement. Un plaisir énorme.
Parce qu'on dit bien que la danse classique, c'est difficile, on souffre beaucoup. Là, vous n'avez pas ressenti ça, c'est pas ce qui est ressorti.
Il fallait serrer les fesses, hein, ouais. mais un plaisir énorme, de savoir que le corps pouvait se positionner en première, en seconde, en troisième, que l'agilité, la souplesse pouvaient permettre autre chose au corps. Une très grande rigueur... De la souffrance, peut-être pas, mais en tout cas, beaucoup de travail et énormément de plaisir. Énormément.
Est-ce que ça vous a donné envie d'aller dans d'autres styles de danse ?
Oui, j'ai cherché longtemps, j'ai rencontré des gens formidables, mais Madame Lombard restait Madame Lombard et devenait irremplaçable. Donc je n'ai pas réussi... à la remplacer. Et je n'ai pas réussi à continuer vers la danse, bien que ça a été une révélation première.
Est-ce que c'était une source d'inspiration aussi pour écrire ?
Inconsciemment, je dirais. Mmh. Probablement. La musique aussi est une source d'inspiration. J'ai eu la chance de faire du chant au conservatoire et d'aborder le solfège. Et je trouve que là aussi, dans le solfège, il y a un langage un peu hermétique, un peu différent de la communication, et qui dit tellement de choses.
On va en profiter pour faire une pause musicale avec une chanson que vous avez choisi de nous faire partager, et on se retrouve juste après.
Je suis dans un milieu hostile, ils m'ont eu en plein dans le mille. Commander est ma mission, rester en clan, nous réussirons. Mais qu'est-ce que je vois dans l'horizon? Des ennemis attaquer nous devons. Circonflexe et typex, il faut les passer au moulinex. Circonflexe et typex, il faut les passer au moulinex.
Alors, pourquoi avoir choisi cette chanson, Stéphanie Waller ?
Alors, Odile, j'ai choisi cette chanson car j'ai eu l'occasion de voir le spectacle de U en Avignon. Un spectacle pour enfants, on devait être dans la salle 8 ou 10 personnes. Et c'était un spectacle phénoménal, extraordinaire sur la différence, sur l'altérité. En fait, c'est l'histoire de consonnes et de voyelles. Et des consonnes cherchent le secret du langage. Et le secret du langage, c'est l'autre, c'est la voyelle.
Alors, on va continuer avec ce parcours qui a mené de la poésie à la danse, au chant et au théâtre. Et à l'écriture toujours. En parallèle, il y a toujours eu l'écriture.
Oui. Toujours une écriture très privée, très personnelle, comme beaucoup de gens peuvent écrire sur des petits carnets, des petites choses. Voilà. Après, le premier texte qui a été reconnu fut Alifa. Alifa qui a été reconnu par un concours que j'avais passé. J'avais obtenu un deuxième à Cécite et la reconnaissance aussi de la Provence. Le maire qui m'avait aussi envoyé une petite lettre pour me féliciter. Donc toutes ces petites graines de reconnaissance ont été pour moi très réconfortantes et en même temps je n'ai pas sauté sur l'occasion. Alors Alifa, c'est... L'eau rouge de ta bouche coule dans mes veines et plus rien ne bouge. Je suis dans un sommeil de vers pilés amoncelés qui crient comme des carnassiers. Je m'enfuis car j'ai un poignard qui court entre mes deux cœurs qui ont pris toute ta chaleur, je meurs. Un nuage fleurissant passe pour décrocher une parole de l'affreux scorpion qui court entre mes paraboles et le mot amour voudrait venir à mes hanches desséchées. Qui ne font que t'appeler, mais au détriment de ce que je suis, je refuse et je m'enfuis.
Bravo.
Merci.
Ça, c'était écrit quand ?
Je devais avoir 18-19 ans. Mmh.
Alors, on continue. Est-ce qu'on peut avoir d'autres textes choisis parmi tous ces nombreux, avant de venir aussi au roman ? Donc, il y a eu encore de nombreux textes poétiques.
Mmh. Alors, le théâtre m'a fait rencontrer des gens extraordinaires. Ce qui est très important dans cette recherche artistique, c'est les autres, c'est la rencontre avec les autres. Il me semble que, je me répète encore, bien qu'étant un acte solitaire, on n'est jamais en dehors des autres dans l'écriture. Donc j'ai rencontré Alain Pudal, j'ai rencontré Sophie, dont je ne me souviens plus du nom, qui était professeure au conservatoire. Ça va me revenir.
Sophie Laurence.
Laurence, oui. Voilà. Et j'ai rencontré Plumentiel, Liliane Loufrani, pardon, Liliane Loufrani, que je connais bien, Claudine Thiot, Christian Richebois et tous les autres, et que je ne cite pas, mais Marie-Hélène Prévost, que j'aime profondément. Et un jour, Liliane Loufrani, avec qui je jouais dans la troupe de Plumentiel, avait comme projet de travailler sur la grippe aviaire. Et il s'est trouvé, par des circonstances, que l'écriture m'a été confiée. Et je me suis inspirée de Racine, de Phèdre, de cette femme qui aime son beau-fils. Alors vous allez me dire, quel rapport entre la grippe aviaire ? Aucun. Si ce n'est l'écriture de l'Alexandrin. Donc je suis partie de la tirade de Phèdre qui dit je ne me souviens plus, mais ça va revenir. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Non, c'est pas ça. Bon, je ne m'en souviens plus. Et donc, à partir de ce texte-là, j'ai fait un pastiche. Un pastiche. Et les vers de Racine m'ont prise au corps. Et c'est devenu un travail très, très fluide. Alors, je voudrais aussi remercier Alain et Annie Bossan. Hein. Alain qui a fait un travail phénoménal parce que, bon, moi, il faut que j'y croie un peu pour ne pas garder les choses dans mes tiroirs. Et Alain y a cru, ainsi que Liliane. Et il a tapé tout mon texte, c'est-à-dire que je lui donnais le texte manuscrit et lui, il tapait le texte. Donc, merci, un grand merci à Alain Bossan. Et ce texte a été mis en scène, c'est-à-dire que les mots qui ont été mis sur un papier sont devenus, ont pris corps. Et c'était
magique.
Ah oui.
Alors, parce que c'est dit par plein d'autres personnes, c'est pas que de votre bouche.
Ah mais moi je ne jouais pas. Ouais. J'avais décidé d'être de l'autre côté.
Alors est-ce que d'entendre son texte joué par d'autres que vous connaissez bien, toute la troupe, vous avez eu envie aussi d'être un peu metteur en scène aux côtés de Liliane Loufrani ou vous lui avez fait entièrement confiance ?
Entièrement confiance. Mm-hmm. On avait chacun des rôles distincts. Moi, on m'avait confié ce travail de potier, peut-être. Et Liliane, elle était là pour mettre en scène. Je n'avais pas ce travail-là à faire. Et tant mieux. Et tant mieux parce que Liliane était metteur en scène aussi de mon travail d'écriture. C'est-à-dire que elle ne m'a pas dit ce que je devais faire, mais elle a toujours eu un œil bienveillant et une impulsion dynamique face à ça.
Donc un exercice difficile quand même d'avoir écrit inspiré par Phèdre et Racine.
Alors ça c'était ma volonté.
Sacré exercice de style. Et alors ensuite, est-ce que donc le voir jouer, ça a été un plaisir? Est-ce que ça a eu un succès? J'ai malheureusement pas vu cette pièce.
Oh, Plumentiel a un succès dans nos montagnes. Et je me souviens d'une représentation au Pigeonnier qui m'avait fait très très chaud au cœur. À Thouars aussi, une belle réception. Mmh.
Est-ce qu'il va rester des traces? Est-ce que ça a été filmé?
Je n'en ai aucune idée.
D'accord. Donc, suite à ce succès-là, ce plaisir, est-ce que ça donne envie d'écrire d'autres pièces? Qu'est-ce que ça a provoqué par la suite?
Alors, par la suite, j'ai écrit un texte sur l'infanticide.
Oui. Alors là, sujet... bien que la grippe aviaire soit un sujet grave pour nos poules, l'infanticide.
Beaucoup plus
sombre,
et de mon fait, voilà, que j'ai envoyé à un concours, lequel je ne sais pas, et qui m'a remercié en m'encourageant à continuer, mais voilà, sans aucune.
Est-ce que vous voulez bien nous le lire?
Alors, peut-être pas entièrement.
Ouais.
Derrière la vitre principale de l'unique fenêtre du salon, les rideaux doucement ouverts, malgré le vis-à-vis, les gens dans la rue, gris et nombreux. Derrière les volets mi-clos, en s'asseyant à califourchon, simple, voire sans être vu. Avoir une prise infime, minime, minuscule, ridicule sur le monde extérieur. Pour les passants, il fallait lever la tête pour deviner une présence, un regard. Ils étaient rares ceux qui levaient les yeux vers les cieux. Un peu plus loin. L'image d'une possession abdominale, ventrale, cannibale. Prendre tout de l'autre pour se croire invincible, indestructible, inaliénable. Prendre tout de l'autre, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, emprisonnant le support de la glotte en passant par le larynx jusqu'au plexus et de là, pousser. Enfoncer ses doigts en profondeur jusqu'à ce que l'air ne passe plus, jusqu'à ce que l'air devienne inévitablement manquant, voire sans être vu. Donc c'est l'histoire, encore une imbrication, hein, de différents regards, une femme derrière sa fenêtre, et deux autres enfants, un autre enfant, Al, dont il est le fils, Al est le fils de cette femme derrière la fenêtre, qui attend un autre enfant. Et donc, il va y avoir la tragédie qui est à peine dite, hein, de cette femme qui va refuser ce bébé à naître et qui va plonger donc Al dans l'enfer de sa mère. Donc quelque chose de très noir, très dur, mais que j'ai voulu être une compréhension des sentiments complexes qui font l'humanité. Après, je suis pas là pour juger quoi que ce soit, surtout pas, mais pour avoir des interrogations. Voilà.
Pour en revenir justement à l'écriture, le sens est important pour vous, enfin comme pour beaucoup. Quand vous écrivez, c'est pour répondre C'est pour poser vos questions, pour avoir des réponses, comme une écriture automatique.
Je m'inspire beaucoup de l'écriture automatique et de l'Oulipo et tout ça. Et Yankelevitch disait... Ben ça y est, j'ai oublié ce qu'il disait. En fait, est-ce que c'est si important d'arriver à la signification ? C'est pas ce qu'il disait, hein, mais je me souviens plus de la citation.
Qu'est-ce qui motive votre écriture, par exemple ?
L'écriture elle-même. C'est-à-dire qu'au départ, c'était peut-être une évasion, peut-être une volonté de comprendre le monde, et sans doute, effectivement, de se comprendre soi-même aussi. Et plus j'avance dans l'écriture, plus c'est l'écriture elle-même qui m'intéresse. C'est-à-dire arriver à l'inconnu, comme dit Arthur Rimbaud dans La lettre au voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes de folie, trois petits points parce que je ne me souviens plus, il expérimente en lui pour arriver à se faire voyant. Bon, j'aurais dû amener les citations, ça aurait été plus simple. Au suprême savoir, il devient entre tous le grand maudit, le grand criminel, mais il arrive à l'inconnu. Bon, elle a été très déformée, la citation, là. Je m'en excuse. Et je crois que c'est Baudelaire qui dit rien de ce qui n'est beau n'est indispensable à la vie. Mais il dit, c'est Baudelaire, que j'aime aussi beaucoup, le lieu le plus utile pour nous, c'est les latrines. Donc, la notion de beau ne passe pas obligatoirement par des adjectifs amélioratifs, des adjectifs fleuris, pas obligatoirement, ça peut être sordide, mais on peut arriver à la beauté dans... comme Céline, qui malgré l'histoire, la petite histoire, enfin, c'est pas une petite histoire, c'est une grande histoire, mais dans son écriture, a atteint des choses sublimes.
Alors, vous avez écrit beaucoup de choses. Ça permet donc de jouer avec les mots, de mieux comprendre la vie. Et vous avez été amenée au théâtre. Vous avez 42 ans, on peut le dire.
Eh oui.
Voilà. Vous avez été aussi dans votre travail, votre métier, c'est l'enseignement.
Oui.
L'enseignement de quelle matière ?
Du français.
Du français. C'est aussi un plaisir pour vous d'enseigner, de transmettre. Le goût des mots aussi.
Oui, ben c'est un cheminement finalement qui est assez logique. Je ne pouvais pas m'extraire des mots. Je suis allée dans le sens de ce qui me portait. Et dans la relation d'enseignant à enseigné, il se passe des choses extrêmement porteuses, extrêmement créatives. Il y a un potentiel imaginaire et un potentiel d'intelligence chez les enfants, enfin chez les enfants, les adolescents, qui est énorme, qui va bien au-delà de cette stigmatisation par SMS ou ordinateur ou derrière les écrans. Ils sont bien au-delà de tout ça. Il y a une richesse énorme, énorme. Et je crois aux mots, à ce qui ne sert à rien. Je crois fondamentalement à tout ça.
À des mots qui ne servent à rien.
Comme disait Baudelaire, tout ce qui est beau ne sert à rien.
Alors le théâtre, après, vous avez écrit une pièce, maintenant vous jouez. Et quel est votre plaisir dans le théâtre ? Qu'est-ce que vous recherchez à travers ça ?
La danse me devant de mettre un point final à la danse, comme pour des raisons que je ne saurais expliquer, le théâtre m'a ouvert les bras avec la ruelle Saint-Michel, un petit théâtre qui se trouvait dans une petite ruelle.
Oui, vers la glacière. Hein, voilà. Ouais.
Et ça a été une communion de groupes, un plaisir du texte. Et le corps devenait mot et les mots devenaient corps. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans une abstraction, ça prenait une consistance. Et après des rencontres, c'est magique le théâtre, c'est très fraternel, très très fraternel. Et je crois que cette fraternité-là m'a beaucoup, beaucoup portée. Je travaille avec Philippe Maurice maintenant au conservatoire.
Donc lui, c'est aussi professeur de théâtre, mais beaucoup spécialisé dans le clown.
Exact. Et je crois qu'il nous ouvre des portes sur, toujours sur l'altérité, évidemment, et sur l'amour. Mais l'amour, pas dans le sens ampoulé et rose-bonbon qu'on peut nous faire ingurgiter de temps en temps et de temps à autre. Mais l'amour profond du clown avec toute sa sensibilité et sa gaucherie. L'amour de l'enfant, l'amour pur. Enfin, pur. Ça veut rien dire ce que j'ai dit là.
On gomme.
On gomme.
Marche arrière. Donc, c'est du théâtre avec Philippe Maurice maintenant, plus un travail sur le clown, qui est très différent de la comédie. Est-ce que vous pourriez...
Alors, je puise chez Philippe Maurice des tas de choses que que j'essaie de répercuter dans mes cours. On travaille avec les élèves sur les fables de Jean de La Fontaine qu'on essaie de mettre en scène, qu'on met en scène. Voilà. Le corps, même le corps dans la poésie est extrêmement important.
Est-ce qu'on fait une deuxième pause musicale ?
Volontiers. Dit.
Avec Hubert Félix Thiéphen, Le Chant du Fou. Allez.
L'alcool s'est figé sur ton verre, ta cigarette tombe sur ton cœur, et tu cherches une vérité par-delà l'espace. Oui, tu cherches une vérité. sort de son trou. Les yeux recouverts de poussière de 3 siècles passés, j'ai vu si fait. Un autre fou sort de son trou et vient respirer la lumière qui gerce les murs d'un guichet comme un grand coup du cimetière. Les feuilles tombent du coca et se répandent. Demain, tu verras tous ces petits alchimistes pulvériser un continent. Et ta tête tombe de son socle de rêve. Et ta tête tombe. Son socle de rêve. Ouais, ta tête tombe de son socle de
Voilà, c'était Hubert Félix Thiéphaine, un chanteur, auteur que vous aimez beaucoup aussi.
Qui a bercé mon adolescence.
Donc, on revient avec Stéphanie Waller pour ceux qui prendraient l'émission en route. Et on va parler de ce projet qui prend forme, d'un projet, un gros projet, celui d'écrire un roman et de le faire éditer. Et aujourd'hui, vous en êtes où ?
Donc, plusieurs étapes ont eu lieu. Première étape, le joli cahier. Donc la première étape a été la plus intéressante, enfin, en tout cas la plus spontanée. L'écriture du texte comme il venait.
Donc manuscrit sur un très joli cahier, un livre cahier. C'est important le support.
Ah oui, très important. Il me semble que l'écriture est un acte sensuel. Ensuite, il a fallu que je passe vers l'écran, ce qui a été beaucoup plus long. Et j'y ai trouvé aussi quelque chose de très intéressant, j'allais dire jouissif. Osons.
Allons-y.
Un texte qui est devenu bien paginé. Noir, blanc, et avec une utilisation des ressources que nous donne l'informatique, où la couleur peut apparaître aussi, les formes, la déstructuration des choses. Et tout. Les formes, où au jour d'aujourd'hui, on peut insérer des tas de choses. Et c'est incroyablement riche. Alors...
Et puis, on peut se reprendre. Alors, justement, par rapport au fait... quand on travaille sur ordinateur, on peut changer la place d'une phrase, on peut supprimer des mots, enfin, sans tout bousculer. Quand on écrit sur un cahier avec des... Il y a des ratures, il y a des petits trucs dans la marge, c'est un peu plus compliqué pour se relire après.
C'est totalement vrai. On peut faire du copier-coller, la répétition peut avoir lieu en un clic. Et c'est effectivement très, très intéressant. Là, je me suis vraiment plongée dans ça. Et j'ai découvert cet outil. Parce qu'avant, au-delà du crayon ou de la plume ou du stylo, la machine à écrire. Mais là, c'est vraiment un outil incroyable. Qui fait de très belles choses. Même si le côté sensuel est un peu moins fort. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à taper mon texte. L'idée de le taper, je me suis dit, mais le pauvre, je vais le faire souffrir. Et de cette souffrance est née autre chose. On se rend compte que l'écriture de départ et l'objet d'arrivée ne sont pas les mêmes. C'est très, très différent.
Alors, quand on écrit sur l'ordinateur ou en général ?
Le passage de la première écriture, de l'écriture automatique, de l'écriture spontanée, de l'écriture qui se fond dans un contexte de mer et de vagues ou dans une foule ou à l'intérieur d'un monastère ou dans un bus. Cette écriture qui est complètement spontanée, après va subir un remaniement, va subir une frappe, on va la taper et on va la modeler, la transformer. Et plusieurs étapes de transformation ont eu lieu. Et là, enfin, je suis arrivée à la dernière étape, si ce n'est qu'il faut que j'imprime tout ce qui est imprimé. Donc, j'ai encore des petites choses à faire. Mais c'est incroyable comme l'objet de départ et l'objet d'arrivée sont diamétralement...
opposés.
Peut-être, oui. Peut-être.
Donc, ce qui a motivé l'écriture de ce roman, donc c'est encore une autre façon d'écrire, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, vous vous êtes dit, je vais écrire un roman où il s'est fait tout seul, il y a eu une idée déclencheur.
Depuis très, très, très longtemps, j'ai ce désir d'écrire un roman. Et je ne me suis pas donné le droit, peut-être, de le faire par manque de temps, par manque de courage, mais plus par manque de confiance, à mon avis. Il a fallu que les rencontres se fassent, il a fallu que le temps passe pour que le projet initial que j'avais d'écrire sur là-bas qui signifie en hébreu père, Abba, pour que ce projet initial d'écrire sur le père prenne forme et prenne cette forme-là. Donc ce texte, c'est Labba que j'avais d'abord écrit L-A-B-B-A, tout attaché, puis que j'ai remanié en acceptant que l'adverbe de lieu soit présent. C'est Labba de point la mer. La mer, c'est tout attaché. Donc plein...
tout attaché, mais la mer... M-E-R quand même.
Ah bah il y a toute cette ambiguïté.
D'accord.
Il y a quatre la mer. Il y a la maman, il y a la mer méditerranée ou la mer, toutes les mers. Il y a l'amertume. Et il y a l'âme qui erre. Et ce texte, c'est ça, c'est l'âme qui erre. Ce sont deux voix qui disent « je ». Deux voix qui s'entrecroisent, celle d'une femme qui est donc la maman et celle d'un enfant qui est donc l'enfant, qui est donc le fils dans la filiation. Et ces deux voix qui se cherchent elles-mêmes, qui cherchent leur jeu, J-E, mais qui se cherchent aussi, qui cherchent l'autre dans cette recherche-là. Et qui, dans cette recherche de la compréhension de soi et dans la compréhension de l'autre ne se trouvent pas forcément ou s'entrecroisent ou se frôlent, mais trouvent une voie. V-O-I-E et V-O-I-X.
Là-bas, la mer, donc un projet qui enfin est presque bouclé, il reste quoi ?
Il reste à finir de photocopier les pages, enfin d'imprimer les pages, puis de photocopier le livre pour ensuite l'envoyer à différentes maisons d'édition. Il faut que je me renseigne aussi sur les maisons d'édition. Donc, il y a aussi protéger les textes, tout ça.
Est-ce que par rapport à toutes les poèmes que vous avez écrits, vous les avez aussi fait éditer ?
Non. J'ai fait un travail de protection de textes au début, quand Alifa avait bien marché et tout. Puis après, c'est un travail tellement encore différent que je ne m'y suis pas engagée. Mais bon, ça fait partie du jeu, j'ai eu. Donc, faut le faire. Voilà, il faut voir jusqu'où ça peut aller.
Est-ce que vous l'avez fait lire à vos proches, famille, amis ?
Oui, je l'ai fait lire un petit peu. Et j'ai eu des retours. Certains m'ont donné des conseils. D'autres sont restés sans voix, mais peut-être parce que c'était leur façon de dire aussi, d'être dans le silence. Puis d'autres encore m'ont encouragée avec beaucoup de tendresse et d'affection. Voilà. Donc, après, ça va aussi me permettre à moi d'aller au bout d'un acte créatif, créateur, je ne sais pas. Je crois que c'est important d'aller au bout et de voir. Après, c'est pas rédhibitoire. Les refus ou les acceptations, partons du refus d'abord, ne m'empêcheront pas de continuer à écrire. Et l'acceptation serait un allègement, une sorte de confirmation dans une confiance. Voilà, c'est important pour moi de finir ce travail.
Est-ce que vous parliez d'un écrivain qui vous avait beaucoup influencé ou que vous aimez beaucoup ?
Oui, au jour d'aujourd'hui, je suis extrêmement admirative de Nathalie Quintane. Donc j'ai lu quelques-uns de ses textes et qui sont pour moi qui touchent une vérité profonde du poésis, c'est-à-dire de la création.
Et vous allez nous en lire
un tout petit peu. Donc Nathalie Quintane, Crâne chaud. Chez POL. Les encouragements, je me les fabrique moi-même. Il n'est pas dit que les miens puissent devenir les vôtres. Je veux dire par là que je ne promets rien, mais que je n'empêche personne non plus. Je n'empêche personne d'y mettre le nez, de repérer des ressemblances, des informations sur l'époque ou l'année en cours, des éléments, utiles ou pas. Ce que vous en ferez, c'est votre affaire. Si ça vous amuse, tant mieux. Et si vous y voyez le moyen de sortir d'une impasse ou une explication possible à l'impasse dans laquelle vous vous êtes fourré, tant mieux aussi. Bon, c'est vraiment un tout petit échantillon. Et Nathalie Quintane, c'est une musique pour moi. C'est une musique qui m'aspire vers le haut. C'est une sorte d'inspiration. Alors, mon compagnon m'a dit Nathalie Quintane, c'est Nathalie Quintane. Stéphanie Waller, c'est Stéphanie Waller. Et d'autres me l'ont dit aussi. Mais n'empêche que il me semble qu'elle touche une vérité qui aujourd'hui me parle énormément. Alors, si vous voulez bien, que je vous lise là-bas.
Là-bas, la mer.
La mer.
Donc, ce roman qui est en attente d'éditeur et d'édition.
Alors, c'est pas tout à fait le début. C'est la quatrième page. Désir. 1, 2 points. Fabula. Ou fabula. Je m'appelle Albert et mon père n'est pas mort à la guerre. Je viens d'une rencontre amoureuse tout à fait normale, d'une copulation tout à fait normale. Ils se rencontrent, un jour d'été, une musique chaude susurre des mots sucrés et tendres. La jupe de ma mère est légère. Elle n'est ni trop belle ni pas assez. Lui, c'est pareil. Lui, il fait des études de médecine. Au jour d'aujourd'hui, ici, il est médecin. Là, maintenant, dans notre village, son cabinet dans notre maison. Là-bas, avant, elle fait des études d'infirmière. Ici, maintenant, elle est infirmière. Puis nous. Alors elle est mère au foyer. Le petit lapin aux yeux bleus est mort. Aujourd'hui, je trouve ce qu'elle écrit avant. Un petit peu plus loin. Mater 3. La vie équivaudrait à 3 mètres cubes de sable. Au commencement, la terre mère, vague dans les ténèbres. La brume des ténèbres se dissipe au-dessus de l'abîme. Il la tient au-dessus de l'abîme. Il sépare, il arrête, pousse index majeur, annulaire et auriculaire. Puis plus rien. Tout s'amasse en une seule masse. Plus de verdure, plus de grands serpents, plus de semences, plus de sens. Tout s'assombrit. Il était parti, là-bas, un désert, là-bas. C'était une eau, c'était une âme, c'était un homme. Un homme, là-bas, la semence, le sens, là-bas, là-bas, là-bas. Ah.
Donc, extrait du roman « Là-bas, la mer » de Stéphanie Waller. Ça rime. Donc, un projet qui a mis du temps à voir le jour, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il faut se concentrer sur le roman uniquement. On peut pas écrire en parallèle des poèmes. Comment ça se passe au niveau de... Ça demande une rigueur.
Pour ma part, ça a demandé un cheminement. C'est-à-dire que le projet, je l'ai depuis longtemps. A-t-il fallu que je me donne le droit de le faire? Et qu'est-ce qui crée les conditions pour que ce droit soit validé par soi-même? Je ne sais pas. Là encore, bon, peut-être la maturité, mais j'en suis pas convaincue. Les rencontres... Il a fallu peut-être une maturation. Alors, c'est drôle parce qu'on se dit que... Lorsqu'on est loin des contraintes du travail, des contraintes familiales, des contraintes... On a plus de temps, donc plus de possibilités. Eh ben, il s'est trouvé que là, j'étais dans les contraintes de la vie. Et c'est à ce moment-là que ça s'est fait.
Alors, vous avez 2 enfants.
Exact.
Ça fait du travail aussi. Est-ce que c'est un handicap ou un atout pour écrire?
Bah, apparemment, ça a été un atout. Mmh. Apparemment. Ce qui semble surprenant, parce que comment associer tout ça? Comment associer la gestion de la maison, le balai, ou la préparation des cours, ou les courses à faire, ou... le maternage des enfants et les jeux que l'on peut faire avec eux. Et ce moment de solitude. Eh ben, il se trouve que c'est grâce à, peut-être pas au balai au coin du mur, mais peut-être. Mais en tout cas, à ce maternage, à cette prise réel dans la vie que le texte s'est fait.
Donc ce texte, vous l'avez fait lire à quelques-uns, ça vous a plutôt encouragé. C'est important d'avoir un retour. Et est-ce que vous acceptez les critiques, s'il y en a ?
Ben, elles ont été très douces hein, pour l'instant, alors bon... Oui, c'est très important, le regard de l'autre. Alors, il faut moduler ce que je dis. Ça n'est pas une communication habituelle, le travail sur la poésie ou sur le roman. C'est une communication différée, et puis ça n'est peut-être même pas une communication, quoique. En tout cas... C'est pour l'autre. C'est pour soi et c'est pour l'autre qu'on écrit. Enfin, je dis « on », pour ne pas dire « je ». Mais...
Quand vous avez besoin de vous exprimer, ça passera plus par une lettre que verbalement, oralement.
Ça dépend vraiment des contextes. Ça dépend vraiment... du destinataire, ça dépend de beaucoup de choses. Non, je suis beaucoup dans le dire. Hein. Mais... Trois personnes ont aussi beaucoup compté dans ce travail-là, dont une, énormément. Mais bon, voilà, c'est le tissage et le maillage de ces rencontres qui font que c'est possible. A posteriori, quoi, par rapport à tout ça.
Et qu'est-ce qui pourrait vous faire le plus plaisir, puisque ça, c'est l'aboutissement de tout votre travail d'écriture. Quel serait l'aboutissement de l'aboutissement ?
Ah ben, que ce soit lu. Que ce soit lu. Voilà.
Et alors, on parlait tout à l'heure de la voix. La voix VOIX, puisque vous avez pris des cours de chant. Est-ce que vous avez pris des cours d'écriture aussi ? Est-ce que ça vous a intéressé ? Ou est-ce que c'est...
J'avais rencontré Marianne Grand une fois dans une balade littéraire que j'avais trouvée... balade que j'avais trouvée extrêmement apaisante et très enrichissante. Alain Pudal avait été mon professeur de français. Et donc, l'écriture avait un sens aussi. Mais non, je ne me suis jamais engagée sur cette voie-là. Alors que ça aurait été une possibilité. Mais non.
Non, c'est plus le travail spontané. Et par rapport à la voix, voilà, on va y revenir. La voix, ça veut dire... Apparemment, vous en avez une plutôt pas mal. La chanson, c'est quelque chose que vous avez pratiqué aussi, le chant plutôt. Est-ce que l'envie de mettre des textes en musique ou les faire chanter, soit par vous, soit par d'autres, ça pourrait être aussi un projet
J'avais rencontré à l'époque de ma jeunesse... avec Alain Pudal, Patrice Saunier qui faisait de la musique, qui mettait des textes en chant et qui me l'avait proposé et j'avais dit oui. Après, c'est un travail très particulier hein, où le musicien et l'écrivain enfin, doivent s'accorder et pourquoi pas? Pourquoi pas, si ce n'est que je ne l'ai jamais fait.
Et vous-même, parce qu'il y a pas un peu, on n'est pas mieux servi que par soi-même. Il pourrait vous venir une mélodie. Je crois que l'idéal ce serait encore ça, pour avoir vraiment l'harmonie avec ce qu'on ressent dans l'écriture.
Oui, c'est encore un autre monde, me semble-t-il, parce que. Je crée des chansons pour mes enfants. Hein. Mmh.
Enfin, ce n'est pas une nécessité absolue. Hein. Non, on peut très bien écrire de très beaux textes sans les faire chanter. Ou...
Mais il me semble que c'est encore un autre monde. Je ne connais pas du tout le monde de l'enregistrement. Tout ça, c'est encore une autre sphère que je ne connais pas. C'est de l'écriture. Par contre, la musique est très très importante dans l'écriture. Je voulais faire des partitions à un moment donné, non pas de notes, hein, mais de mots. Parce que les notes sont un langage et je me suis dit pourquoi les mots ne deviendraient pas notes. Et la musique est extrêmement importante. Quand j'ai rencontré des musiciens au conservatoire, je me suis dit que eux, ils avaient une vérité à laquelle je devais essayer d'accéder pour mon écriture. Parce que je crois que c'est Verlaine qui dit de la musique avant toute chose. Et l'écriture, c'est de la musique.
On fait une autre page musicale avec cette fois Kayak
et Béroyer.
On l'écoute et on en parle après.
Spiel koch an Spiel. Ja, pod osłoną.
Et on retrouve Stéphanie Waller qui nous parle de poésie, d'écriture et de son roman à éditer Là-bas la mer. On va revenir avant de lire encore quelques extraits de ce livre en attente d'édition. Vous dites, un poète, c'est quelqu'un qui a envie de dire des choses et envie d'être écouté. Alors, est-ce que ça pourrait vouloir dire que n'est pas poète celui qui a envie de dire n'importe quoi ? On peut avoir envie de dire n'importe quoi ?
On peut avoir envie de dire n'importe quoi, complètement.
Et d'être écouté aussi.
Et on peut avoir envie d'être écouté. Après, on se doit de quoi ? D'une certaine sincérité et... Je ne sais pas si on se doit de quelque chose. On peut dire n'importe quoi, à mon avis. On n'est pas obligé... On n'est pas obligé de quoi ? Tous ces verbes « devoir »,« obliger » m'embarrassent. Donc oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Vous aimez les gens qui sortent de l'ordinaire aussi.
J'avais 18 ans.
Ah, d'accord. Maintenant, ça a changé ? Ça peut changer, ça ?
Vous savez, Odile, j'aime les gens que je croise dans le bus. Enfin, je les aime. J'aime... On va garder ce verbe. Les gens que je croise dans la rue... J'aime les gens que je croise à la messe. J'aime les gens que je croise au travail. Enfin, j'aime.
En tout cas, vous portez de l'intérêt aux gens.
Exactement.
Vous les regardez. Vous essayez de les voir au-delà de... Est-ce que vous imaginez des choses sur des inconnus, par exemple ? Croisés dans le bus, par exemple ?
Je me dis que l'autre peut faire peur. Mais que l'autre est aussi un continent qui peut me révéler à moi-même. Et je ne peux pas me permettre de dire qu'il y a une hiérarchisation des personnes. C'est quelque chose qui me révolte un peu au jour d'aujourd'hui, de me dire que il y aurait des êtres moins que d'autres. C'est-à-dire que je me suis souvent posé la question ces derniers temps sur est-ce que l'existence se suffit à elle-même ? Être au monde se suffit-il à lui-même ? Apparemment, non. Et pourtant.
Et créer, c'est quand même important.
Ah, bah, créer, c'est... Après, il faut trouver un sens à l'existence, sans doute. Enfin, faut-il, là encore. Quelqu'un qui va labourer son champ pour nous nourrir a trouvé un sens créatif extrêmement important. Et pourtant, il me semble qu'il y a une hiérarchisation. Des compétences ou... Une personne qu'on va dire une personne malade, mentale ou un fou, déjà pouvons-nous étiqueter ? Et pourquoi étiqueter ? Alors pour différentes raisons. Mais je crois que... Voilà, je me pose beaucoup de questions sur ça au jour d'aujourd'hui. Sur l'être, le paraître, la place.
On va vous écouter lire un extrait de ce livre, Là-bas, la mer.
Écrire pour créer, c'est se taire dans le silence des hiéroglyphes. Il me tait et ne m'enterre pas. Je crie le gras et me tais de terre. Dire l'incompréhensible sans raison apparente. Dire ce que personne pour personne, ce que rien pour rien. Dire parce qu'il y a les mots, uniquement pour ça. Pour maudire les mots, pour les sacraliser, pour mal dire les mots ou bien les dire ou les crier ou les mettre en silence, dans le silence de la blancheur de la page. Dans un silence tellement plein de rien, un silence solitaire, rempli de possibles, d'incertains, de vous, de probables, d'éventuels, rempli d'un certain regard, lequel ? Probable, éventuel, incertain, possible. Possibles amis, pas obligatoires. Et après. C'est compliqué. Après, personne ne sait. Personne n'en est jamais revenu. Je ne suis jamais aussi bien lorsque mon corps danse. Le temps immuable du jamais recommencer, de l'éternel retour de l'imaginaire. Sur le clavier, les doigts investis tressautent, s'agitent, s'arrêtent, enchaînent, respirent et s'essoufflent. Je suis moi, seul avec vous, éventuellement. J'écris n'importe où et surtout au milieu du monde.
Tes baisers, oh, tes baisers de sa bouche. C'est très bon tes amours de toi, mieux que le vin. Comme odeur, tes parfums sont si bons. Un parfum s'impose, c'est ton nom. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. Emmène-moi, allez, courons après toi. Le roi m'a fait entrer dans ses chambres. Joie pour nous, joie par toi. En mémoire, tes amours mieux que le vin. On a bien raison de t'aimer. Fille de Jérusalem, je suis noire et magnifique, comme les tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. Mais ne me voyez pas si noire. Celui qui m'a bruni, c'est le soleil. Les fils de ma mère en colère contre moi, ils m'ont faite gardienne de vigne. Mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Raconte où est le pré, toi que j'aime, moi. Là où tu emmènes les bêtes, comment tu les fais reposer à midi. Je ne serai plus perdue au milieu des troupeaux de tes amis.
Si tu ne le sais pas, la plus belle des femmes à l'essor, à la poursuite du petit bétail, emmène auprès des petites chèvres, tout près des maisons des bergers. Mon ami, je te compare, une jument entre les chars du pharaon. Tes joues sont jolies entre les colliers, et ton cou entre les perles. Nous te ferons des colliers d'or constellés d'argent.
Le roi est au milieu de sa cour, et là, mon parfum de nard donne son odeur. Un petit bouquet de myrrhe, c'est mon amour à moi. Il passe la nuit entre mes seins, une grappe de henné, c'est mon amour à moi dans les vignes.
Te voilà si belle, mon ami. Te voilà si belle. Tes yeux, oh, des colombes.
Te voilà si beau, mon amour si gracieux. Notre lit si frais. Les poutres de nos maisons sont des cèdres.
On retrouve Stéphanie pour un dernier extrait de ce roman, Là-bas la mer.
8. Ad hominem terrare humanum est. Papa, aime-moi. Tu es papa. Papa, aime-moi. Tu es papa. Papa, aime-moi. Tu es papa. Papa, aimez-moi. Tu es papa. Abba, 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 abba. Dieu existe ? Papa, 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 aime-moi, aime-moi, aime-moi. Mon papa, mon petit papa, aime-moi, aime-moi. Mon papa, mon petit papa à moi, ah, au secours, viens, viens, délivre ondée, je m'évapore. Je vais vers là-bas, j'ai peur. Papa, ne m'oublie pas, ne me laisse pas, ne me lâche pas, papa. Pas elle, pas vous. Pas de désir, pas de plaisir. Ni elle, ni toi. Moi, 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 rien que moi. Moi avec toi, moi en toi. Pénètre-moi de ton amour. Oui, jusque là, là. Je jouis, je vis, je suis dans tes bras et dans ton amour. Pour de vrai.
Merci Stéphanie. On va se quitter sur ce texte issu du roman Là-bas la mer de Stéphanie Waller. Merci beaucoup et on va se quitter avec une chanson encore que vous avez choisie de Björk.
Merci beaucoup Odile.
Merci, à bientôt.
You have poured yours. Maybe.